Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Palabre en forêt sur Radio Barthès 107 FM. Alors avant de commencer, je vais profiter d'avoir la parole pour vous annoncer un gros événement qui va avoir lieu sur le sud de Lozère. Donc c'est la fête de la forêt, ou donc un événement à destination du grand public qui a pour objectif de mettre un peu en avant la forêt sévenole et qui se déroulera donc le 12 et le 13 mai prochain. Donc principalement à Bar des Cévennes, mais aussi le vendredi soir à Florac Trois-Rivières. Donc n'hésitez pas à noter dans vos agendas pour pas louper l'événement forestier de l'année. Alors aujourd'hui, on vous propose une édition un peu spéciale parce que notre technicien son préféré s'envole vers d'autres contrées, en Guadeloupe. Donc on a décidé de faire une émission spéciale sur la Guadeloupe et la forêt guadeloupéenne.
C'est une sorte de petit clin d'œil. On a contacté donc un agent du parc national de la Guadeloupe qui va être avec nous et qui va répondre un peu à nos interrogations sur la forêt guadeloupéenne, les arbres, la nature globalement de Guadeloupe. Et ça nous permettra de prendre un peu de recul sur les Cévennes et de faire peut-être des comparatifs. Ça reste toujours intéressant. Voilà.
Et du coup, avant d'accueillir Patrice Segretillier, technicien sport nature du Parc national de Guadeloupe, on va situer un petit peu. Alors, on va partir du coup à 6800 km de Florac et pour rejoindre donc l'archipel de Guadeloupe. Donc, c'est dans les Petites Antilles, c'est entre la mer Caraïbe et l'océan Atlantique. Et la Guadeloupe, en fait, oui, c'est un archipel, c'est un groupe de 5 petites îles habitées. Alors on a les deux îles principales, Basse-Terre, Grande-Terre, et trois autres petites îles, la Désirade, les Saintes, Marie-Galante, la capitale c'est Basse-Terre, c'est la préfecture de région, et la capitale économique, Pointe-à-Pitre. On est donc sur un département et une région à la fois, d'outre-mer, et donc la Guadeloupe c'est à peu près 380 000 habitants. Voilà. Et en fait, avant d'être nommée Guadeloupe par les Espagnols en 1493, ça s'appelait Carouquera. Et Carouquera, en fait, ça signifie l'île des belles eaux, si on dit pas de bêtises. Et donc, les Amérindiens l'avaient nommée ainsi. Et on pense devenir pourquoi ? Parce que bon, ça doit être juste magnifique. Voilà. Et c'est devenu un territoire français en 1635. Voilà. On n'a pas dit de bêtises, Patrice Segretillier ?
Bonjour, je vais
pas. Bonjour.
C'est bien les recherches, c'est parfait. Par contre, les Amérindiens, parce que bon, ben voilà, j'étais pas là au moment où Christophe Colomb a rencontré, je dis bien rencontré, parce qu'il a rencontré des hommes.
Oui.
L'île s'appelait par les Amérindiens Kalouekira, qui voulait dire l'île au gommier. Dont la transformation après s'est faite, Kalouekira, bon, c'est vrai que ça sonne bien. Mais c'est pas vraiment l'origine. Mais de toute façon, Vous allez chercher dans toute la documentation, c'est ce que vous allez trouver.
Oui.
Mais là, aujourd'hui, je fais la rectification. Ça s'est entendu par plein de gens. On se voit que c'était l'île aux gommiers. Les gommiers qui sont des pirogues, d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, parce que la forêt, le gommier, c'est le dieu pour moi de la forêt de Guadeloupe. Mm-hmm. Ben, c'est là-dedans qu'ils creusaient les pirogues. Voilà.
Merci.
Sinon, bonjour à tous.
Merci. Je vais commencer à te poser quelques questions. Donc, c'est Aymeric, moi, le garde du parc des Cévennes. Et je voulais justement que tu nous parles de ton métier. En quoi consiste ton métier au Parc national de la Guadeloupe?
Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'ai les mêmes fonctions que toi. Je suis, alors, les anciens disaient plutôt moniteur garde pour
c'est
mettre
ça,
en avant la
fait.
Pédagogie. Voilà. Et j'ai fait mes classes aussi à un moment donné dans les années 91, début des années 91, ce qu'on appelait les stages d'immersion autrefois. dans les Cévennes.
Ah,
mon premier parc d'adoption, c'était la Vanoise, mais après, ça a été les Cévennes où j'ai rencontré tous les anciens qui, parmi eux, sont déjà partis à la retraite en grande majorité. Donc, voilà. Donc, je les salue s'ils nous entendent. Et donc, voilà. Donc, moniteur garde, mais depuis peu, j'ai des fonctions voilà, où je suis responsable un peu de tout ce qui est sport et nature. Et chaque fois qu'il y a une manifestation dans ou autour du parc en rapport avec mes fonctions, c'est généralement moi qui traite les dossiers. Voilà.
D'accord.
En gros. Mais sinon, je suis encore sur le terrain et à crapahuter, à être un peu présent, la police, mais voilà, on est là, l'éducation beaucoup et la sensibilisation auprès du grand public.
Très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la fameuse forêt guadeloupéenne et ouais, quel est ton lien avec cette forêt ?
Elle est très forte. C'est très fort. Et donc, du coup, c'est vrai que bon, moi, j'ai, on dit souvent, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis pas là par hasard et j'ai commencé très jeune. Donc, dès l'âge de 8-10 ans, j'étais déjà un peu bercé par tout cela. Je savais déjà dans ma tête qu'il fallait pas que je sois enfermé, qu'il fallait que je sois en extérieur, faire un boulot d'extérieur, et l'appel de la forêt, c'est arrivé comme ça. Donc dès l'âge de 8 ans, et initié par mes oncles, qui étaient chasseurs, et puis bon, j'ai quand même fait, j'ai une formation qui n'a rien à voir avec ça, hein, j'ai fait de la comptabilité, enfermé pendant 3 ans et demi, et puis je suis devenu animateur socio-éducatif, et donc c'est mon premier métier. Et j'ai eu l'occasion de passer mon diplôme d'AMM, d'accompagnateur moyenne montagne, donc je suis un diplômé d'État montagne. Et il y a eu un concours local où j'étais contractuel au parc national pendant 6 mois. Et puis je pense que ça a été le truc qu'il fallait pour commencer à me préparer et aller jusqu'au concours national. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort qui me lie à cette forêt. Et depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'elle est, elle représente beaucoup à mes yeux. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de venir, c'est vrai que on est bercé par tellement de choses en même temps. Et l'immensité, on est sur un petit territoire, mais quand on est dedans, on est tellement petit qu'on a l'impression que c'est interminable.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'une action qui t'a marqué en lien avec cette forêt, un travail qui te concerne et qui t'aurait marqué sur la forêt guadeloupéenne ?
Alors, c'est vrai que dans les années 50, ça c'est quelque chose qui a un peu touché un peu tout le monde. Aujourd'hui, on en tire les bénéfices, pas à grande échelle, parce que bon, je vais vous expliquer pourquoi. Cette forêt primaire, parce qu'on a la chance encore d'en avoir, un petit peu, un petit bout, parce que c'est vrai que l'homme a vu l'étendue du territoire qui est pas immense, l'homme est allé un peu partout, mais on trouve encore des zones un peu protégées où on n'a pas forcément pu mettre le pied à grande échelle. Une bonne partie de la forêt primaire a été coupée à une époque pour planter du mahogany, qui est une essence de grande qualité. Aujourd'hui, un bois très réputé, très recherché, qui coûte très cher. Mais comme je dis, hein, c'est comme un chien, un enfant. La nature, les arbres, ça s'éduque aussi. Et c'est vrai que à l'époque, on a coupé de la forêt pour planter du mahogany. C'est un arbre qui nous donne un fruit qui a la forme de bout de bois, qui est assez gros, qui n'est pas mangé par des animaux, encore moins par des oiseaux, et qui en fait n'ont pas eu pour toutes les parcelles l'éducation que moi je dis, parce que quand on veut faire de la foresterie, on coupe des arbres. Quand on coupe un arbre, si on peut pas tirer 10 à 15 mètres de bois en entier, c'est pas rentable. Et là, c'est vrai qu'ils sont tordus déjà à la base, pratiquement pour beaucoup d'entre eux, et qui fait que le rendement n'est pas optimal. Sinon, aujourd'hui, la chose qui me marque le plus, c'est qu'il y a un projet, et parce qu'on a plusieurs types de forêts hein, chez nous. Hein. Donc, dans la forêt marécageuse, j'ai un collègue qui a entamé un projet, on l'a pris un peu pour le marginal à l'époque, de reboisement justement de cette forêt marécageuse. Donc, les jours prochains, il va faire de la semence. Et on plante cette forêt marécageuse qui joue un rôle important au niveau de l'écosystème. Et donc voilà, c'est le côté un peu négatif que je vous ai donné un peu, sachant que bon, aujourd'hui, ces arbres-là arrivent à maturité, ce dont je parlais tout à l'heure, les mahogany. C'est vrai qu'au début, comme ça, on le voit très mal, on se dit purée, on a gâché une partie du patrimoine pour pour faire entrer une espèce qu'on pourrait trouver ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, un arbre de valeur. Et voilà. Mais la filière bois n'est pas très forte chez nous. Il y a une ou deux entreprises qui ont un peu repris parce que l'Office national des forêts a un peu laissé tout ça tomber. Voilà.
Est-ce que le mahogany, c'est une essence qui vient de quelle contrée?
D'Amérique. Alors, c'est plus du sud, je crois.
Ouais.
Mais voilà. Alors on a deux espèces, le mahogany petite feuille et la grande feuille. Les noms scientifiques ne me reviennent pas. C'est
sweetenia mahogany. Non, c'est pas grave.
C'est un détail. Oui. Mais le petite feuille qui était déjà présente sur l'île a une croissance beaucoup beaucoup plus longue. Il faut compter bien 75 ans. Donc, quand un forestier plante un arbre comme ça, il le plante pas pour lui, il le plante pour la génération d'après. Mmh. Et le grand feuille, une cinquantaine d'années. Et c'est vrai qu'on a commencé à les couper il y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que la filière bois, elle est pas, c'est pas vraiment ce qu'on a. Au départ, quand ils ont été plantés, il y avait vraiment l'Office national des forêts était très présent. Ils sont encore là, mais la filière bois un peu, c'est un déclin.
D'accord.
Et oui, bah finalement, on retrouve un petit peu aussi les mêmes enjeux. Enfin, oui. En Cévennes déjà, on dit que la filière bois, voilà, c'est pas top. Mais quand on est sur une île, bah ça doit être encore y a d'autres enjeux. Mmh. Et voilà. Mais c'est vrai que cette essence, du coup, le mahogany, est-ce qu'elle est aimée aussi par les habitants? Parce que ça nous fait un peu écho en Cévennes, peut-être nous à notre pain maritime,
qui a été
introduit largement, et qui est vraiment l'essence finalement qu'on retrouve le plus et qui pourrait être utilisée pour la production et qui est un petit peu utilisée aujourd'hui, mais qui a pas trop non plus. Justement, les chartes forestières avec le parc, on travaille dessus. Et, du coup, le mahogany, Patrice, il est aimé des habitants? Comment ça se passe?
Tout à fait.
D'accord.
Alors, il y a, quand on dit que la filière bois, mais il y a encore des anciens qui sont présents sur l'île. Quand on parle, alors, on a parlé de la capitale administrative, mais la capitale du bois chez nous, c'est Pointe-Noire. Une commune qui se trouve sur le versant ouest de l'île, la côte sous le vent, et où on a encore ce savoir-faire. Et les meubles en mahogany sont réputés, hein. C'est des meubles, ils voient des générations et des générations. Mes grands-parents ont des meubles en mahogany. Quand on faisait un lit en mahogany, alors surtout dans l'esprit de ce que faisaient ces gens-là à l'époque, créole, voilà, ils faisaient des meubles qui étaient un peu particuliers avec colonnes. Ben quand on a ça à vie, quoi. On partira, on laissera. Et c'est du bois très dur. Pas facile forcément à travailler, mais qui donne un rendement et d'une beauté extraordinaire. Il y a des pays comme le Canada qui ont des vues sur nous, hein.
Ah, pour les meubles.
Ah oui, parce que ce bois-là représente beaucoup, donc ils seraient prêts à l'acheter. Ce qui fait qu'il y a deux, c'est un collègue, qui a un peu repris le bois et qui est rentré là-dedans et qui ils ont des contrats avec l'ONF sur les parcelles existantes où ils font de la coupe, l'extraction de bois et de la transformation. Donc c'est pas grande échelle, mais ça commence. Ouais.
Et pour évoquer une autre essence, on a vu pendant nos recherches que vous aviez aussi du châtaignier. Alors ça nous a un peu interrogé parce que nous, le châtaignier dans les Cévennes, c'est un peu l'essence phare, quoi. Tout le monde l'adore, mais qu'il soit un peu mal en point malheureusement avec le changement climatique. Donc j'imagine que c'est pas le même qu'il y a en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette essence-là?
Ouais, alors je vais vous dire comment les noms sont arrivés sur les espèces. Les premiers chroniqueurs, les premiers botanistes, donc on parle du père Labat, du père Duterte, donc ces gars-là sont arrivés avec une connaissance venant de l'Hexagone, ils connaissaient des espèces. Et donc, tout simplement, on peut trouver chez les animaux comme les végétaux, des noms comme ça qui ressemblent à des espèces de chez vous. Donc c'est pas compliqué. Le châtaignier, en forêt, celui qu'on appelle les famille des Solanea, châtaignier grande feuille, donne un fruit, comment vous appelez, une bog, c'est ça?
Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça, qui ressemble énormément à un truc piquant, qui ressemble aux châtaignes de chez vous.
Okay.
Et du coup, par ressemblance, ils ont appelé ça châtaigne. Et ça fonctionne très bien. Comme nous, nos enfants, quand on est en animation scolaire avec des jeunes du pays en forêt, ça parle pas pour eux. Mais dès l'instant qu'on a des classes en échange qui viennent de l'Hexagone et chez nous, quand on fait voir ce fruit aux enfants de chez vous, tout de suite ils disent « Ah, châtaigne !»
Ah oui.
On voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne. Donc c'est par ressemblance. La griffe, ce qu'on appelle griffe chez nous, ben, c'est par ressemblance aux griffes d'Europe, mais c'est pas la même famille du tout, c'est juste une histoire de ressemblance. Donc les tout premiers On fonctionnait avec un esprit d'enfant. Ils ont donné des noms à des espèces sans qu'ils aient un rapport. Aujourd'hui, on sait très bien, et dans cette grande famille, ben, ça fait partie des espèces, les grands géants de la forêt de Guadeloupe.
D'accord. C'est lui qu'on nomme aussi le fruit à pain ?
Alors voilà, on a là le côté manger et le côté forêt-bois.
Ouais.
Donc, le fruit à pain, donc on connaît un peu l'histoire du fruit à pain avec le bonsaï, tout ça, c'est arrivé. Là, c'est encore autre chose.
Ah.
Et dans cette famille du fruit à pain, on a aussi une espèce qu'on appelle le châtaignier, la châtaigne, qui donne, lui, c'est pas par ressemblance extérieure, c'est par ressemblance intérieure. Mmh. Le fruit ressemble au fruit à pain, sauf qu'il est, il y a des petits picots sur la peau, et la même forme, mais des picots. Et à l'intérieur, par contre, le fruit, et enfin, on pourrait dire les fèves, ressemblent à la châtaigne. Donc, du coup, voilà, ça a pris le nom de châtaigne, mais c'est cousin du fruit à pain. Donc voilà, il y a à chaque fois des similitudes, des ressemblances avec des choses connues qui viennent d'ailleurs, et souvent d'Europe. Et voilà. Mais c'est pas du tout la même famille,
oui.
Ça n'a vraiment rien à voir.
Bon. Okay. Et du coup, en Guadeloupe, est-ce que tu vois, il y a une culture, une tradition forestière ?
Ben, tout à l'heure, je parlais des habitants de Pointe-Noire, hein, et qui font encore des meubles, ben justement il y avait cette forte culture, parce que pour bénéficier des mêmes conditions climatiques, on a le versant au vent, versant est, qui à 400 mètres, ce qu'on va prendre en pluviométrie à 400 mètres, pour bénéficier des mêmes conditions sur l'autre versant de l'île, pour monter à 800-900 mètres. Donc les gens avaient cette habitude de monter en forêt déjà, une, pour cultiver, et deux, pour extraire des choses et en faire, justement, du côté Pointe-Noire, tout ce qu'on sait par rapport aux meubles et autres. Et c'est vrai que on a déjà cette partie-là, donc le bois qui était extrait pour faire des meubles. On faisait aussi des essences, parce que les maisons ont été protégées. Je sais pas si ça existe chez vous, je ne sais pas, des essences, c'est pas des tuiles, mais c'est
les
lattes de bois.
Ouais, ah oui, voilà. C'est ça.
C'est taillé, et là aussi, c'est un savoir-faire qui se perd de plus en plus. Et c'est vrai que ça existait chez nous pendant un moment. Alors, la culture, il y a aussi... Quand on parle de la Guadeloupe, faut le prendre dans son ensemble. On peut pas arriver comme ça aujourd'hui, parler d'aujourd'hui sans parler d'hier. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que mon histoire, l'histoire de mon île, de mon pays, fait partie de l'histoire de France, mais on vous l'a pas conté.
Et
fait qu'aujourd'hui, c'est encore du flou. Mais c'est vrai que c'est des histoires qui sont douloureuses. On nous critique quelque peu en disant « vous revenez toujours sur les mêmes choses ». Non, pour avancer dans la vie, il faut connaître ce qu'on a été pour savoir où est-ce qu'on va. Et donc, chaque fois, on est obligé de faire un apport à l'histoire, un rapport à l'histoire, et l'esclavage y est pour quelque chose aussi, pour plein de choses, pour ce qui nous arrive encore aujourd'hui. Et le marronnage, par exemple, ben, ça a été, la forêt est un lieu de marronnage où les gens, c'était les refuges, où quand on fuyait les coups et tout le reste, ben nos héros, en fait, hein, ceux qu'on a appelés les nègres marrons, ben ils sont partis dans la forêt. Et c'était des lieux de vie. Alors quand on voit, ils vivaient de quoi ? Ben ouais, c'était souvent ce qu'on appelait des réduits, des zones de campement. Et pour se nourrir, ben ils redescendaient dans les villes, pillaient. Donc il y a eu une réputation en rapport à ces avec eux, disant qu'ils étaient sanguinaires, ils tuaient. Oui, on tue pour manger, on tue pour la liberté, et donc c'était pas tuer pour tuer. Ils faisaient des choix dans ceux qui tuaient, mais aussi pour manger. Donc ils pillaient ce qu'il y avait en bas, parce que la forêt de chez nous, il y a pas grand-chose. Donc les anciens montaient très haut sur le versant sous le vent pour bénéficier des conditions pour planter. Ce qui fait que autour de cette forêt, elle est un peu maudite. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on commence à s'approprier la forêt de Guadeloupe. Les gens qui y étaient, c'est les agriculteurs, côte sous le vent, pour cultiver, et les chasseurs. Donc ce sont eux qui ont plus ou moins développé tous les sentiers aujourd'hui sur lesquels on randonne. En grande majorité, ce sont des sentiers qui ont été ouverts par des chasseurs et des agriculteurs pour les besoins de manger. Alors, on avait peur de la forêt. Qui y allait, agriculteurs et chasseurs, parce qu'ils avaient toujours un outil en main. Donc, s'ils rencontraient un nègre marron, voilà, ce que je n'ai jamais rencontré pendant mes expéditions, ben, ils pouvaient se défendre. C'était ça. Et le commun des mortels, celui qui vivait entre la mer et la limite forêt, ben, lui, il ne rentrait pas dans la forêt parce qu'il y avait toujours cette peur. On a véhiculé la peur et qui fait qu'aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années, que voilà, la randonnée est devenue une activité de loisir, de détente et de tout ce qu'on veut. Mais il y a 50 ans de ça, il y avait une élite qui partait randonnée, et souvent c'était des hauts fonctionnaires de l'État qui étaient qui connaissaient l'activité, le bien-être que ça procurait, et donc ils y allaient. Mais le Guadeloupéen de souche, voilà, c'est une activité, on pourrait dire, nouvelle depuis une trentaine d'années, quoi.
Ouais, c'est une histoire très riche. Puis on voit l'importance aussi des missions des parcs nationaux de rappeler ce patrimoine-là, qui nous construit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et là, tu viens de parler de randonnée, justement. Et on a vu donc que le parc national de Guadeloupe, vous aviez créé un sentier de découverte, la maison de la forêt. Et donc voilà, pour donner envie à Corto d'y aller, est-ce que tu peux nous en parler?
Alors c'est pas celle-là que j'aurais mis en premier, mais bon, c'est vrai qu'elle a le mérite d'exister. D'accord. Je veux dire ça comme ça. Non, mais c'est très bien que vous en parliez, parce qu'en fait c'est pas nous qui l'avons fondé, j'allais dire César, si ce qui lui appartient.
D'accord.
Mais en fait à l'époque le sentier de la maison de la forêt existait déjà parce que la forêt, elle est voilà, c'est la forêt départementale de Manial, elle appartient au département avec une gestion forestière, et c'est l'Office national des forêts qui a géré cette forêt pendant encore aujourd'hui, elle est voilà, gestionnaire, et nous dedans en même temps, donc il y a cette double gestion. Et l'ONF avait déjà créé ce sentier d'interprétation qui mérite un rafraîchissement, et c'est ce qu'on va faire, voilà, c'est-à-dire que il existe, il y avait des et sur une petite portion de forêt, hein, c'est ce qu'il y a de magique, c'est que juste cet endroit, un circuit qu'on peut faire en 20-25 minutes, ben on a une quantité d'espèces extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tous référencés et recensés et nommés. Comme ça, ça faisait que les gens qui allaient se promener pouvaient justement se familiariser avec les essences de chez nous. Et avec le temps, ben il y a eu des dégradations, nous on n'a pas suivi forcément. On a la maison de la forêt qui est au milieu de la forêt tropicale, où nous avons des agents d'accueil qui font de l'accueil du grand public et aussi de l'animation. Et aujourd'hui, on n'a plus les petites affichettes au pied des arbres, mais on les envoie comme des chasses, comme à la chasse au trésor, avec des pliants où on leur dit de reconnaître et de ramener un maximum d'infos sur cette forêt. Donc nous, le projet, et justement, ça s'adresse au grand public. Voilà, quand je dis que c'est pas ce que je voulais mis en premier,
oui.
Mais c'est vrai que quand on vient en Guadeloupe, ben voilà, c'est une route. On traverse la forêt, on est en plein cœur de la forêt, une route qui relie le versant ouest au versant ouest, et au milieu, on a cette maison thématique et ce petit bout de forêt où on peut découvrir des choses. Et les gens, ils s'arrêtent. Donc, il faut saisir l'opportunité, l'occasion, et leur donner un maximum. Et donc, on va de plus en plus développer cette zone-là.
Ouais, donc ça c'est pour une petite mise en bouche. Et du coup, toi, quelle forêt tu conseillerais à visiter justement, et quelle est peut-être celle que tu préfères?
Oh, on va me traiter de chauvin. Mon pays, il est tellement beau. On a la chance d'avoir une diversité. Quand je disais qu'il y a plusieurs types de forêts, hein, on peut depuis le bord de mer jusqu'au plus haut niveau, le volcan de la Soufrière. Alors, c'est vrai que si je parle de la Soufrière, on va dire, ah, oh, ça y est, il est chez lui, et puis voilà, il va se laisser délivrer. Donc, nous, moi, je veux dire la forêt, justement, entre la forêt intermédiaire et les hauts sommets, donc ce que j'appelle la forêt de la pluie. La forêt hygrophile, qui veut dire j'aime l'eau, voilà. Donc cette forêt-là, justement, quand je parlais des dieux de la forêt, on a des arbres qui se font 20-30 mètres de haut, et c'est là que je vous parlais de dimension. Donc pour moi, c'est la plus représentative du territoire, encore avec des zones plus ou moins protégées. Puis vous l'avez dit, hein, tout à l'heure, c'est que on a quand même cette chance. Le parc national fait partie du paysage guadeloupéen depuis déjà plus d'une trentaine d'années, donc on peut pas faire sans. Et on faisait sans nous avant, mais les choses ont évolué vraiment très rapidement. Et quelque part, heureusement qu'on est là, parce qu'on aurait pu voir disparaître des milieux qui sont encore extraordinaires, et on a des espèces protégées. Voilà. Pour moi, ça c'est cette partie-là, la forêt, forêt de la pluie, où on a cette en créole, c'est le mot lianage qui me vient, Je vais trouver mon mot tout à l'heure. Mais on trouve tout. Donc on a les rivières qui sont pas très loin, il y a beaucoup de cours d'eau. Et pour moi, mélanger les deux, aujourd'hui, c'est en vogue. Hein, les gens font de leur piste, il y a quelque chose qu'on a loupé, et sortent des sentiers battus pour aller à la découverte de choses particulières. Donc à travers ce milieu-là, on peut trouver des cascades. Donc on peut se laisser vivre là-dedans très clairement. Et c'est vrai, pour moi, c'est la plus extraordinaire.
Est-ce que j'ai une petite question, parce que moi je suis très branché mousse. Est-ce que c'est pas dans ce genre de forêt là très humide qu'on a des mousses partout sur les troncs qui pendent des branches et tout ça, c'est pas ça l'ambiance?
Tout à fait, c'est bien ça. J'avais l'occasion de faire une animation et qui est connue, hein, je crois que c'est Sylvania, mais moi je l'avais adapté au milieu tropical. Et nous, nos arbres, ils sont pas isolés, ils sont pas tout seuls, ils ont plein de copains, ils ont plein d'amis, et beaucoup de mousses, beaucoup de lichens, des fougères, des orchidées. Un arbre chez nous, quand on le regarde, c'est une forêt à lui seul, hein, parce que on peut quelqu'un comme toi, bon, chez botanique, ben tu t'es pas obligé d'aller très loin, hein. T'arrives sur ton arbre et là tu as du travail pour la journée, hein. Et sur un seul arbre, parce qu'on va trouver tellement de choses, et c'est ça la qui fait aussi la beauté. Des racines jusqu'au pied, dernière feuille, ben voilà, il y a plein d'espèces qui viennent se greffer. Un arbre, jamais chez nous, il est tout seul, isolé dans son coin, tristounet, non, c'est pas ça. Effectivement, on trouve beaucoup d'espèces qui viennent dessus.
Patrice, vous allez nous faire partir Aymeric en Guadeloupe, il va partir avec Orto.
Venez pas à la nage, parce que les billets sont chers, il faut faire aussi un truc là, faire passer un message. Faut qu'il réduise sur le prix des billets.
Ah oui.
Ça fait très envie, en tout cas, de découvrir ça. J'aime bien cette phrase. Quand tu regardes un arbre, tu as du travail pour toute la journée.
Ouais,
ça,
ah ouais.
Ça génial. C'est exactement ça. Ouais. J'ai l'occasion de travailler avec un spécialiste des fougères. Bah, ils sont épuisants, ces gars-là. Non, on n'avait pas de la journée. Moi, c'est parti et je pars. Je regarde pas l'heure. Et puis là, 200 mètres, 4 heures de temps. Ouais, Je suis mort. Il y a tellement de choses, on n'en finit pas.
Et oui, parce que j'ai regardé quelques chiffres là sur la forêt de Guadeloupe. L'île de la Guadeloupe détient presque 3 fois le nombre d'espèces de fougères en France métropolitaine.
Incroyable.
Vous avez presque 300 espèces, alors que nous, on en a une centaine. Ça donne une idée.
On en a dénombré à l'époque du théâtre qui est là-bas. 350, environ 350.
Ah oui, c'est ça, c'est 3 fois.
Bon, les habitations, l'agriculture a fait disparaître beaucoup de zones vraiment plus proches de la mer. Donc, on a des fougères qui ont disparu, mais on est facilement 300 espèces au moment où on parle.
Alors, chers auditeurs, on va vous proposer une petite pause musicale guadeloupéenne. Donc, avec un artiste qui nous a été suggéré par Patrice et qui s'appelle Esnar Boisdur.
Wow, ça me fait vibrer ça.
Oh,
C'était donc Mauvais Monde de Esnar Wadir. Merci beaucoup Patrice pour cette découverte. Dans le studio, on était tous convaincus. Donc je pense que ça va être là.
J'ai pas pu danser, mais j'étais pas loin.
Ah oui. Et vous venez de parler de mousse, tous les deux, Patrice et Aymeric. Et Aymeric, tu as vu quelque chose en ce moment par rapport aux mousses.
Alors là, c'est un petit retour sur les Cévennes. Et effectivement, nous, en Cévennes, on a connu l'année dernière, mais partout en France et partout en Europe, une sécheresse quasi sans précédent, plusieurs mois avec très peu de pluie. Et du coup, une énorme mortalité sur tous les milieux herbacés, notamment, mais aussi arbustifs. Et ça crée des espaces nus, de terres nues, qui sont assez immenses pour cette année. Et on vient aussi de traverser, là, ces deux voire presque trois derniers mois, une humidité quasi constante et très régulière qu'on n'a pas coutume d'avoir pendant les hivers. Et c'est un temps de mousse, pour ce que moi c'est comme ça que j'appelle ces temps de mousse, très humide, donc ils sont très favorables aux mousses. Et les mousses étant des êtres vivants plutôt colonisateurs, pionniers, et ben ils se sont empressés de coloniser tous ces espaces nus. Et du coup, toutes ces pelouses qui étaient dénudées, on peut voir une grande dynamique des mousses au sein des pelouses, au sein des milieux arbustifs, et c'est assez épatant de voir comment la nature reprend, recolonise les milieux qui ont été entre guillemets abîmés par la sécheresse, et les mousses en premier, mais après derrière les mousses viendra d'autres espèces. Mais moi j'avais trouvé, c'est une observation que je peux pas faire tous les ans parce qu'on n'a pas des hivers et des automnes aussi humides que celui-là. C'est pas la quantité, mais c'est plutôt la régularité. On a vraiment un temps breton depuis quelques mois et on a très envie de revoir le soleil, mais moi je me contente d'observer les mousses, ça me fait plaisir. Voilà, j'étais content de t'entendre parler des forêts humides de la Soufrière, ça me fait rêver.
Et justement, ben là, tu viens de parler finalement des impacts du dérèglement climatique, et en Guadeloupe, est-ce qu'on peut l'observer sur les forêts, le dérèglement climatique? Est-ce que vous êtes touché également, enfin, et comment ça se manifeste?
Ben, dans la forêt que je viens de citer là tout à l'heure, on le ressent pas, ou du moins pas encore. Si jamais ça devait arriver, ça veut pas dire qu'on n'est pas veillatif, hein. Le dérèglement climatique, on pourrait dire plein de choses là-dessus, hein. On a de plus en plus de cyclones. Parce que c'est un rapport avec le dérèglement climatique. Donc forcément, les cyclones ont un impact énorme sur cette partie de la forêt, sur l'ensemble du territoire. Mais cette partie de la forêt va subir de gros dégâts. La mangrove, c'est en premier, hein, parce que plus exposé, là, c'est sûr. La montée des eaux, on peut parler de plein de choses autour de ça. Mais c'est vrai que, revenant sur les cyclones, ben moi, quelque part, il faut voir le plus et le moins là-dedans, hein, le côté positif et le négatif. Quand il y a un cyclone, ben, les grands arbres, ils sont tenus par les racines, hein, et ça tient pas sur beaucoup, hein. C'est justement, ils vont faire partie les racines sur de longues distances, de façon pas plus en profondeur, mais de longue distance, de façon à tenir. C'est-à-dire comme nous, debout, les jambes écartées. Et vu leur taille, ben c'est un qui protège l'autre. Donc tout le monde grandit en même temps et on est là en train de se protéger. Et quand ils tombent, ben c'est vrai que ça fait de gros dégâts et ça revient un peu comme ce que disait Emric, c'est-à-dire que c'est un dégât sur une partie et qui va être voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a des décrochements. On a subi une grosse tempête là l'an dernier au mois d'octobre, septembre, octobre, je sais plus. Et Fiona, on en a beaucoup parlé, chargée en eau, qui nous a mis des zones à nu. Bon, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Et la nature, comme tu disais, va reprendre ses droits très rapidement. Beaucoup d'algues, beaucoup de lichens, beaucoup de mousse, beaucoup de petits végétaux qui n'attendent que ça et qui vont démarrer. L'important, c'est de fixer les racines assez rapidement qui va justement retenir la terre. Et puis, c'est vrai que ça prendra le temps. Ça, c'est la nature, ça prendra le temps. On verra les taches pendant quelques années, mais au bout de dans 10 ans, on aura déjà des pousses qui feront 20-30 cm de hauteur. Mais c'est vrai que, voilà, on le ressent pas trop dans la forêt humide, mais avec tous ces éléments, ben c'est sûr que le dérèglement climatique y est pour quelque chose aussi pour le suivi de notre territoire.
Si on parle du coup de l'avenir de ces forêts guadeloupéennes, quels sont les principaux enjeux en termes économiques, écologiques et sociaux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent vraiment fondamentales?
Ben, nous, on est surtout dans la protection pure et dure. Hein, dans ce parc national, tous les prélèvements sont interdits. Donc, c'est protection des espèces qui vivent dans cette forêt, les oiseaux, les insectes, tout ce qui est animaux, les arbres aussi, toutes les plantes. Nous, j'ai parlé tout à l'heure des rivières. Donc, quand on fait de la surveillance sur un territoire comme celui-là, ben, la forêt, la rivière joue un rôle très important. Déjà une par rapport à la continuité écologique, on a beaucoup d'espèces qui vivent dans ces cours d'eau. Ben sinon on n'est pas veatif de ce qui se passe en haut, ben comme en bas. Voilà, en bas c'est pas chez nous, on est en aire d'adhésion, mais on a quand même un regard parce que s'il y a une pollution en bas, les flux ne se font plus comme ils devraient. Les échanges sont là. Je cherche l'animal. Qui vit le plus, le roisou par exemple, tout ce qui est crevisse, ce sont pas des écrevisses en fait, ce sont des crevettes, toutes nos crevettes prennent naissance en mer et remontent justement tout en haut. Voilà, donc ils vivent en pleine forêt, quoi, dans le lit de la rivière, en pleine forêt. Et au moment de la reproduction, les œufs partent en mer. Mais si on fait pas un travail de gestion de tout cela, je pense que ça ne pourra pas le faire. J'en parlais d'érosion liée, par exemple, à un phénomène comme un phénomène cyclonique qui va tout nous arracher. Mais l'agriculture aussi, on est obligé d'être véatif vers le bas aussi pour justement préserver cette forêt. Les impacts économiques, ben le cyclone y est pour quelque chose, la montée des eaux, ben voilà, peuvent avoir des effets sur une forêt comme celle de la mangrove, où on peut voir des espèces disparaître, qui fait que quand je vous ai cité l'exemple de Golconde où on plantait des arbres qui vont nous servir de barrière végétale, parce que bon ben quand on a la houle cyclonique, donc la mer elle peut monter à 3-4 mètres de haut, donc avec des vagues énormes, donc ça va nous faire une barrière naturelle, et ça c'est important aussi pour des territoires petits comme le nôtre. Alors, en usage traditionnel, ben on a, je parlais de la route de la traversée avec le sentier d'interprétation sur ce tronçon de route. Ben on a des aires de pique-nique. De plus en plus, ben les gens s'approprient ces territoires. On n'est pas loin des grandes agglomérations comme Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault où les gens travaillent. Et entre midi et deux, souvent, les gens ces endroits-là pour se ressourcer en forêt. Donc la forêt franchement joue un rôle très important et les enjeux pour nous sont on peut pas les passer sous silence.
Et est-ce qu'il y a de l'agriculture qui est fait en forêt, on appelle ça agroforesterie, est-ce que c'est quelque chose qui est développé en Guadeloupe?
Alors on a des demandes de plus en plus et nous je disais tout à l'heure que tout est interdit, hein, on est dans un parc national, mais on peut aider sur des parcelles qui sont soit en limite de parc, parce qu'en parc même, mis à part les essences qui ont été plantées autrefois, mais en limite de ces zones-là, on aide justement ceux qui veulent se lancer. La vanille, prenons le cas de la vanille, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, Il y a des anciens qui sont encore là, mais beaucoup de jeunes commencent à se lancer là-dedans et ça peut se faire que sous couvert végétal. Donc la forêt se prête bien à cela. Donc voilà, c'est quelque chose où on est ouvert et où on accompagne aussi les personnes qui sont demandeuses.
Écoute, moi j'ai envie de te remercier déjà pour tout ce que tu nous as raconté. J'ai encore une petite interrogation, j'aimerais t'écouter encore pendant des heures parce que c'est vraiment hyper dépaysant pour nous. Là, faut voir qu'on est en plein hiver, on vient de subir 2 mois d'humidité, de nuages et tout ça. Et on manque beaucoup de soleil et tout ce que tu nous racontes, ça nous donne beaucoup de soleil. Est-ce que tu aurais, c'est vraiment pour satisfaire ma curiosité, est-ce que tu aurais un animal un peu particulier à mettre en avant, en lien un peu avec la forêt?
Alors, moi, j'ai le pic. Parce que chez nous, quand on a choisi les emblèmes qui pouvaient parler, il y avait le raton laveur. Mais en fait, il n'est pas... il a été espèce protégée, maintenant, non. Ils ont parlé d'espèce endémique, mais non, parce que c'est le cousin du lotor, celui du Canada. Donc, moi, c'était pas mon orientation. Moi, c'est le pic de Guadeloupe. J'ai encore un autre petit oiseau parce que je suis en Ito, donc du coup c'est un peu plus ces oiseaux qui me fascinent. Mais le pic de Guadeloupe, c'est vrai qu'il est à un moment donné, justement, lui, il passe à la trappe des espèces qui ont pu survivre parce qu'on a eu des perroquets, on a eu le flamand rouge du côté des salines de Saint-François, le diablotin à la soufrière. Et lui, il passe à la trappe parce qu'il n'était pas comestible. On le mangeait pas. Donc, du coup, et quand il y a eu la mode des couleurs, donc les perroquets disparaissent, donc tous ceux qui avaient de belles couleurs disparaissent, c'est soit pour manger, soit pour les couleurs, par rapport à la mode, les chapeaux, les trucs comme ça, parce que fin 19e siècle, je crois, il y a eu ce phénomène. Et lui, il est tout noir, avec des reflets métalliques, en fonction du soleil. Il mange sous les écorces des arbres, il fait des trous, il mange ce qu'il y a, les insectes sous les écorces des arbres, et il a réussi à passer à la trappe. Aujourd'hui, il occupe tout le territoire, depuis la mer jusqu'au pied du volcan, pratiquement, pas très loin, et il est partout. Et les cyclones ont été favorables à son développement aussi, parce que c'est pour ça qu'on le retrouve en mangrove et en bord de mer, parce que les cocotiers ont été étêtés. Et lui, il est tellement puissant qu'il a réussi à faire des trous dans ses troncs morts et pouvoir se reproduire. Donc, il est partout. Pour moi, s'il fallait un emblème, ça serait celui-là.
Et il a un sifflement particulier ou?
Il faut que je vous l'imite.
Ah ouais, s'il vous plaît.
J'ai trouvé un truc quand j'anime là depuis très peu de temps avec les enfants.
Oui.
Pour les captiver, il faut trouver des choses. Et suivant là où on se trouve, ça marche pas bien. Mm-hmm. Et je vais leur raconter une histoire me concernant. Et surtout qu'il faut pas le répéter d'ailleurs, ce que je vais vous dire là.
On le dit à personne.
Moi, j'étais tellement embêtant quand j'étais petit, on m'a enfermé dans une cage avec des oiseaux, qui fait que j'ai appris à parler la langue des oiseaux. Et du coup, le pic, j'ai appris à discuter avec. Donc je vous fais le cri, vous êtes prêts?
Ouais.
Attention aux oreilles, hein. On a l'impression d'y être.
Excellent, hein. Oui. Excellent. Merci.
Tout ce que tu viens de nous raconter sur le pic de Guadeloupe, ça rappelle tout à fait ce qui se passe avec notre pic noir dans les forêts cévenoles, qui est un grand constructeur de logements HLM pour toute la faune locale, les chouettes, les chauves-souris. Il y a plein d'insectes qui vivent dans les cavités que creuse le pic noir. Je suppose que c'est un peu pareil pour le pic de Guadeloupe, parce qu'il creuse des logements pour d'autres animaux.
Alors, pas pour d'autres animaux, c'est-à-dire que à l'époque, quand il y avait les perroquets vivaient en bas, donc ils se mélangeaient pas. Lui, il était plus à partir des 400 mètres d'altitude et jusqu'au pied en 100. Mais et le perroquet était en bas. Quand le perroquet a disparu, lui, il s'est pas gêné, il a occupé la niche écologique. Bon, ce qu'on pourrait trouver comme animaux, c'est plus alors des fois le gligli, c'est un petit rapace, il pourrait occuper. Je dis bien il pourrait, mais c'est pas des observations qu'on a pu faire, mais des petits insectes, oui. Mmh. Parce que lui, quand il fait son nid, il va l'occuper pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il puisse chercher un autre dortoir.
Merci Patrice. Comme on a l'habitude de faire, on demande à nos invités s'ils ont un petit mot forestier à ajouter.
Ouais, là heureusement que ce matin j'étais inspiré, je sais pas ce qui passait. Et donc je vais parler créole. Hein. Alors vous êtes prêts?
Ouais.
Oui.
Espérez toute tigrine en bas feuille sec et l'ombrage à grand pied bois, vous jouez, on joue. Alors c'est vrai, c'est un souhait, c'est un vœu. C'est-à-dire que c'est ce qui nous arrive, hein. Quand on a un cyclone, tout le monde met la... Oh, on a tous peur, on se dit « Waouh, ça, on va avoir des dégâts chez nous, dans la nature et tout. » Mais c'est vrai que chaque fois que ça arrive, c'est une renaissance, en fait. Donc, s'il fallait traduire du mot à mot, mon espoir, c'est que toutes les petites graines, toutes les petites semences qui sont dans... Ils peuvent rester des années. On a des... Le bois canon, les espèces de lumière, qui peuvent rester de 15 à 25 ans, là, comme ça, attendre qu'une seule chose, en se disant aux grands arbres qui sont là, parce qu'ils profitent de l'ombrage et de tout ça. Mais j'espère qu'un jour, tu vas tomber pour que je puisse, moi, renaître. Et donc, c'est ce qui se passe. À peine un cyclone passé, un éboulement, un chablis, n'importe quoi, les mois d'après, c'est impénétrable. Impénétrable. Ça va tellement vite que tout le monde commence à pousser. L'objectif, c'est la guerre. Ça se passe partout comme ça, mais c'est la guerre pour celui qui va grandir le plus vite et gagner le plus de lumière pour prendre la place de celui qui vient de tomber. Voilà. Ça fait un rapport à des phénomènes comme le cyclone. Voilà. Donc voilà. Alors pour le petit morceau de musique, franchement, et peut-être que pour moi, ça sera le mot de la fin. Tout ce qu'il y avait comme instrument sont nés dans les bois. Voilà. Ah. Un rapport aux anciens, aux ancêtres. Ceux qui sont partis, qui ont marronné, le tambour, le ka, il est né à la base avec, il vient d'Afrique, creusé dans des troncs d'arbres. Voilà. Et on met une peau de cabri dessus. Donc déjà un apport à la forêt. Celui qui accompagnait en faisant le, voilà, qui tapait, il tapait sur du bambou, avec deux baguettes qui sont faites avec du bois. L'instrument, les maracas, c'est fait avec, c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le calebassier, qu'on vide et qu'on met des graines encore d'une espèce végétale, le toloman. Et donc, tout était, il n'y avait rien comme instrument branché sur de l'électricité. Voilà.
D'accord. Eh ben, on regrette bien que vous soyez si loin pour nous faire un petit concert là pour la fête de la forêt. On aurait bien apprécié. Ben, merci encore. Merci pour le message d'espoir. Merci pour ce partage. Merci pour cette belle découverte.
Merci de nous avoir fait découvrir, déjà chez vous. Enfin, moi, je connaissais, mais bon, ceux qui vont nous entendre. Alors, je sais pas si, il y aura une diffusion celui-ci. Ça sera plus chez vous, mais en fait, pouvoir faire découvrir mon territoire.
Ah oui.
Au Sevenol, voilà, c'est fait.
Ouais, quand notre technicien et son préféré, Corto, aura fini de monter, on pourra retrouver l'émission, comme toutes les émissions de Palabre en forêt, sur radiofertas.net. Et bien sûr, Patrice, on vous l'enverra.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Patrice.
Un grand merci, oui.
Au revoir.
Allez. Au revoir.
Et voilà, cette émission s'achève. C'était la dernière avec notre Corto des bois. qu'on remercie chaleureusement pour tout, pour sa patience, pour toutes ces petites coupures au montage que vous nous avez pas entendu, voilà, et sur lequel il a travaillé, pour ces super génériques aussi. Merci.
Big up à toi, Corto.
Voilà.
Tu n'oublieras pas.
Et bon voyage. Et
j'espère que tu feras ton nid en Guadeloupe.
Ouais, en tout cas, ça donne envie.
Et que ça t'a donné envie d'y aller encore plus.
Eh bien, merci. À bientôt, les auditeurs et les auditrices.
Palabre.
En forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise.
Qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h.
Et un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Barthès.
107 FM. Latitude 500, longitude 36.